Bonjour, je suis Véronique Brard, enseignante en voice dialogue, et je vais vous parler aujourd'hui des lois psycho-énergétiques. Je vais reprendre dans ce numéro 130 de mai 2025 ce dont je vous avais déjà parlé dans le numéro 118 de mars 2023. Pourquoi revenir sur ces lois psycho-énergétiques ? Parce qu'elles sont extrêmement importantes lorsque nous désirons nous transformer pour manifester ce que nous voulons manifester. Nous sommes tous des créateurs, mais nous créons de façon extrêmement inconsciente. Comprendre quelles sont les lois qui s'appliquent à notre psyché et comment transformer notre psyché nous permet de transformer ce que nous manifestons. Donc je vais revenir sur ces lois, j'ai essayé de les clarifier, de les classer un peu différemment pour qu'elles soient de plus en plus pour que vous puissiez vous en servir de plus en plus. Bien sûr, une des lois dont je ne parle pas dans ce texte, la loi de base, c'est l'amour de soi. Seul l'amour transforme. Nous ne pouvons pas nous transformer avec les critiques sur nous. Le discernement est nécessaire, mais certainement pas les critiques. Nous pouvons nous transformer ou aider les autres à se transformer avec cette loi de base. Seul l'amour transforme. Donc notre travail de conscience commence avec la compréhension et l'acceptation de ce que nous sommes. C'est cette compréhension et cette acceptation qui rend possible le développement d'une vision consciente, c'est-à-dire une vision qui a du discernement mais qui ne juge pas, puis peu à peu d'un processus d'ego conscient qui lui va pouvoir influencer directement ce que nous manifestons. Donc ce travail de transformation de nous-mêmes, ce travail de conscience, c'est un travail d'amour pour soi, d'amour inconditionnel pour la forme que prend le vivant en nous, comme chez les autres. Comprendre que notre psyché est une structure énergétique qui répond à certaines lois, les connaître, guide notre travail de conscience et favorise cette acceptation et cet amour de soi. Lorsque nous connaissons ces lois, nous évitons les impasses qui entraînent des critiques sur nous-mêmes ou sur ceux que nous accompagnons. Il existe des lois physiologiques. Nous ne pouvons pas plier notre coude vers l'arrière ou notre genou vers l'avant. Aucun critique ne nous en veut pour ça. De même, savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas au niveau des lois psycho-énergétiques, nous évite de chercher à faire ce qui n'est pas possible. Le voice dialogue est un outil pour devenir plus conscient de ce que nous manifestons et pour choisir ce que nous désirons manifester. La source de toute vie qui se manifeste en nous comme autour de nous ne juge pas ses propres manifestations. Elle ne nous punit pas, elle ne nous condamne pas. Quoi que nous désirions, elle nous soutient. Maintenant, les lois qui président à la manifestation ne peuvent pas être contournées. Et ce que nous manifestons, bien souvent, correspond à nos croyances les plus profondes qui peuvent être complètement inconscientes. Commençons par regarder les quatre lois qui président au développement de la psyché. La première de ces lois, c'est que nous développons tous un système primaire, ce que nous nommons l'ego, notre ego. Ce sont les copersonnalités qui nous ont permis de nous adapter au milieu dans lequel nous étions ou d'y réagir. Ces copersonnalités sont des variations individuelles des grands archétypes propres à la race humaine. Elles sont ce que nous disons et pensons de nous, non ce que les autres voient de nous. Et ce sont toujours des parties de nous que nous valorisons. J'ajouterai que tant que nous avons un corps, nous aurons un ego. La question est de savoir si cet ego est conscient ou non conscient, s'il est travaillé ou brut de décoffrage. Pour revenir au fait que nos parties primaires sont ce que nous pensons et disons de nous, non ce que les autres voient de nous, je vous donnerai l'exemple de Laurence. Disons que Laurence se définit comme une personne généreuse et altruiste. Or, tous ses proches la considèrent comme une personne très égoïste. Sa copersonnalité primaire est la généreuse. L'égoïste est sa partie reniée. La partie reniée n'est pas une partie qui n'existe pas, c'est une partie qui est visible par tous nos proches, mais non par nous-mêmes. Cette partie est désavouée, reniée, déconsidérée, et nous ne la voyons pas. La deuxième loi, c'est que les opposés à ce système primaire sont nos parties reniées. Pour chaque copersonnalité primaire développée, il existe une ou plusieurs copersonnalités opposées d'intensité égale qui se retrouvent exclues du système psychique. Nos rêves mettent en scène ces jeux entre nos énergies primaires et nos énergies reniées. Par exemple, une femme de 50 ans fait ce rêve. Je me bats avec un python de 15 mètres. J'essaie de le faire rentrer dans une boîte et je suis totalement épuisée. C'est une excellente image pour décrire ce qui se passe lorsqu'une énergie primaire rationnelle tente de repousser et d'enfermer une énergie instinctive. Automatiquement, celle-ci grossit et devient dangereuse. La partie primaire continue de vouloir la faire rentrer dans sa boîte pour assurer la sécurité de la personne. Et l'énergie de la partie reniée n'est plus disponible, et toute l'énergie de la partie primaire se perd à vouloir empêcher cette boîte de s'ouvrir. Nous pouvons comprendre que dans un tel système, la personne soit épuisée. Il est important de comprendre que toute énergie reniée va se renforcer et finir par nous déborder. Ce contre quoi nous luttons se renforce. Toute énergie reniée va finir par nous envahir. Cette loi énergétique est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de la vulnérabilité, de l'agressivité ou de la sexualité reniée. Cet autre rêve type est celui d'un prêtre de 45 ans. Je me bats avec un pénis ivre sous une douche froide. Nous avons ici quelque chose de parfaitement naturel, un pénis qui est devenu disproportionné et ingérable parce que cet homme a essayé durant des années de le réprimer sans laisser à l'énergie sexuelle la moindre porte de sortie. La vulnérabilité et l'agressivité sont aussi deux domaines qui sont extrêmement reniés dans notre société et qui peuvent devenir incontrôlables. La troisième loi est que le lien énergétique spontané avec l'autre est un double lien parent-enfant. Nous sommes des êtres de lien. Notre façon naturelle d'entrer en lien avec l'autre se fait sur le modèle d'un double lien parent-enfant. C'est notre manière naturelle et normale d'entrer en lien. Nous sommes toujours à la fois dans le rôle d'un enfant et dans celui d'un parent. Même lorsqu'une analyse superficielle nous placerait davantage dans un pôle que dans l'autre. Normalement, ce lien énergétique est dynamique. Nous allons et venons entre ces deux positions selon les situations et les événements. Et de nombreuses autres copersonnalités entrent dans la danse. Mais ce lien s'immobilise dès qu'une vulnérabilité non reconnue et donc non prise en charge est animée. C'est ce que nous nommons l'ancrage. Toute notre personnalité est alors réduite à un rôle de parent et d'enfant. Agréable au début, cet ancrage va le plus souvent finir par devenir clairement inconfortable. La quatrième loi qui préside au développement de notre psyché, c'est que nous développons tous un critique intérieur et en cas de maltraitance, un persécuteur intérieur. Nous développons tous un critique intérieur dont le travail est de nous aider à nous adapter, du moins au début. Mais en cas de maltraitance, se développe malheureusement un persécuteur intérieur. Le mental qui se développe initialement est binaire. Je reçois du bon, je suis bon. Je reçois du mauvais, je suis mauvais. C'est l'origine de ce persécuteur qui, à cause de cette perception mentale simpliste et erronée, cherche à ce que l'enfant redevienne quelqu'un de bien, donc quelqu'un qui reçoit du bon. Prenons l'exemple de Dominique. Dominique a 6 mois et sa mère doit être hospitalisée. L'enfant se sent abandonné. Il reçoit du mauvais, ce qui pour le mental naissant signifie qu'il est mauvais. Le critique se met au travail pour améliorer Dominique. La maladie de cette mère, cependant, ne dépend pas de l'enfant. La souffrance d'abandon continue. Le critique, peu à peu, va se doubler d'un persécuteur intérieur avec son impulsion destructrice qui peut se poursuivre tout au long de la vie. Cache-toi, tu ne vaux rien, tu ne mérites rien, tu n'as pas de valeur, etc., etc. Nous allons maintenant voir 7 lois qui sont la base de tout fonctionnement psychique. Donc, dès le départ, notre psyché se construit en fonction de ces 4 premières lois. Développement d'un système primaire et d'un système renier, construction d'un double lien parent-enfant dans la communication avec les autres, présence d'un critique ou d'un persécuteur intérieur. Ensuite, 7 lois régissent notre énergie. La première loi, l'énergie est naturellement en mouvement. L'énergie est constamment en mouvement entre 2 pôles opposés, ce qui au niveau psycho-énergétique va se traduire par un mouvement entre un pôle pouvoir et un pôle vulnérable. Soit ce mouvement est fluide et intégré, soit un basculement brutal se fait régulièrement de l'un à l'autre. Voici l'exemple d'un basculement entre un pôle pouvoir et son opposé. Florence a décidé de débuter une activité professionnelle. Quand elle commence la séance de Voz Dialogue, la copersonnalité confiante et sûre d'elle est présente. Elle m'explique qu'elle est prête à prendre son pouvoir. Il est grand temps qu'elle gagne sa vie avec ce qu'elle sait faire. Elle est prête à louer un local relativement cher et à signer un bail. Elle se sent certaine de réussir et de pouvoir enfin accomplir ce qu'elle désire, se mettre à son compte. Un moment plus tard, sur l'autre chaise, celle de la vulnérabilité, c'est une toute autre histoire. Florence est méconnaissable, recroquevillée sur sa chaise, elle respire à peine. Un enfant vulnérable est maintenant présent. Il m'explique qu'il est terrifié, que le compagnon de Florence est contre ce changement de vie et que lui, l'enfant, est certain qu'elle va aller de déboire en déboire et finir avec des dettes comme c'est déjà arrivé. Ce qui est important dans ce cas est de construire un processus d'ego conscient qui pourra allier l'homme ou la femme forte et l'enfant vulnérable. Cela permet de prendre en compte dans notre réalité actuelle ces 2 parties de nous-mêmes qui existent toujours. 2e loi, l'énergie suit l'attention. L'énergie suit non pas vraiment notre pensée, mais notre attention. Là où nous mettons notre attention, là va notre énergie. C'est une règle essentielle à connaître lorsque nous désirons changer ce que nous voulons manifester. 3e loi, l'énergie est neutre en termes de valeur. Dans notre monde de dualité, tout est polarisé en bien, mal, vrai, faux, juste, injuste. En réalité, le fait d'expérimenter une énergie comme bonne ou mauvaise dépend de notre interprétation et de notre culture. En elle-même, l'énergie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Cependant, agir en suivant une énergie ou une autre entraîne des conséquences très différentes les unes des autres. 4e loi, résonance et induction. Les énergies entrent naturellement en résonance les unes avec les autres. Lors d'une séance de voice dialogue, le facilitateur va résonner, R-E, pas R-I, avec l'énergie du facilité et aller dans la même énergie. De cette place, il va étirer la copersonnalité présente. Non seulement les énergies entrent en résonance, mais elles s'induisent les unes les autres. Cette loi de résonance et d'induction est aisée à expérimenter. Si une personne commence à rire dans un groupe, bientôt tout le groupe va se mettre à rire. Si une personne commence à critiquer, elle peut aussi entraîner tout le groupe avec elle. Nous vivons constamment ces sortes d'inductions énergétiques sans que notre conscience y prête vraiment attention. Le praticien en voice dialogue va se servir consciemment aussi de cette capacité d'induction pour maintenir ou soutenir une énergie qui s'est manifestée dans la séance pour continuer à l'étirer ou pour induire un opposé à la partie primaire lorsque c'est nécessaire. La loi précédente peut se résumer ainsi. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais un autre phénomène entre en jeu dans nos relations. Les énergies opposées vont s'attirer. C'est souvent une attirance irrésistible, ce que nous nommons le coup de foudre ou une attraction fatale. Malheureusement, dès que la vulnérabilité se manifeste, ces énergies opposées vont se polariser dans des ancrages difficiles. Elles vont alors se repousser et s'accentuer l'une l'autre. C'est ce que nous nommons la polarisation. Et c'est la raison de beaucoup de conflits. Un parent ordonné va se polariser avec son enfant plus chaotique et plus le parent va être identifié à sa partie ordre et structure, plus l'enfant va se réfugier dans une polarité chaotique et désordonnée ou un total laisser-aller. Le père banquier aura au moins un fils pour qui l'argent n'aura aucune importance, ce qui provoquera des querelles sans fin. L'énergie que nous avons reniée chez nous, nous ne supportons pas de la voir s'exprimer chez nos enfants. Or, ce que le parent a renié, l'un au moins de ses enfants va l'exprimer. Ces polarisations sont source de souffrance dans la famille, dans le couple, dans la vie professionnelle. L'un sera personnel, l'autre impersonnel. L'un sera extraverti, l'autre introverti. L'un sera tourné vers le devoir, l'autre vers le plaisir. L'un sera responsable, l'autre le sera beaucoup moins. L'un sera actif, l'autre privilégiera le fait d'être et de se sentir bien. Cette loi, attraction, polarisation, rejet et jugement, est très souvent toute puissante dans notre vie. La sixième loi est particulièrement importante. Toute énergie reniée est projetée. La projection est une façon de jeter un pont vers l'autre pour entrer en communication avec lui. C'est un fonctionnement normal et assez positif. Sauf que toute énergie reniée va être projetée sur une personne ou sur un objet. Cette projection sert l'équilibre psychique, mais elle pose problème. Lorsqu'une projection devient trop coûteuse, il est temps de la reprendre, de reprendre l'énergie portée par l'autre personne ou objet. Je vais vous donner quelques exemples. Laura a renié son enfant vulnérable. Dans la vie, elle se sent toujours entourée par des personnes très vulnérables qu'elle doit aider. Pourquoi ? Parce que ces personnes portent non seulement leur vulnérabilité, mais aussi celle que Laura renie et projette sur elle. C'est ainsi que le piège se referme. Laura est forte, les autres vulnérables, et Laura est obligée de venir à leur secours. Brigitte, ayant renié son voleur et son agressif, a perpétuellement peur que les ouvriers qui viennent faire des réparations chez elle soient des voleurs ou des personnes agressives. Ces ouvriers portent leur propre dose d'agressivité et de malhonnêteté, active ou non active, celle de tout être humain, ni plus ni moins. Mais Brigitte, projetant en plus sa propre agressivité et malhonnêteté totalement reniée sur eux, ces ouvriers deviennent terrifiants. ce que nous projetons sur l'autre le transforme en personne attractive ou repoussante. Il en est de même pour les objets qui deviennent aussi une source d'attraction ou de répulsion. Lucie, matérialiste et fière de l'être, va dépenser une fortune pour acheter un cristal vu dans une vitrine. Il faut qu'elle possède ce cristal, symbole d'une spiritualité à laquelle son rationnel ne veut pas ouvrir la porte. Fabien, comptable respecté et respectable, tombe amoureux d'une vieille Jeep, symbole de son aventurier renié. Au grand désespoir de sa femme, cette Jeep, symbole d'une part de lui qui n'a pas de place dans sa vie, devient tellement importante qu'il va passer une grande partie de son temps libre et des sommes d'argent déraisonnables pour la remettre en état. Septième et dernière loi, nous ne pouvons voir que ce qui est dans notre conscience. C'est une loi difficile à accepter et pourtant souvent confirmée. C'est ainsi, par exemple, que les populations des pays où ont accosté les conquistadors ne pouvaient pas voir les navires qui s'approchaient. Que des masses aussi imposantes puissent flotter sur l'eau n'était pas possible pour eux. Ils ne les ont vues que lorsqu'ils ont été très proches du rivage. Seuls les chamans ont vu ces bateaux au loin. La connaissance de cette règle est précieuse pour comprendre pourquoi notre connaissance mentale est extrêmement partielle. Nos sens ordinaires qui informent notre mental ne perçoivent que ce qui est déjà dans notre conscience. Autrement dit, si un fait n'est pas intellectuellement possible pour nous, nous ne le voyons pas. Lorsque nous nous ouvrons aux autres et à leur monde, nous élargissons notre conscience. Nous allons voir maintenant cinq lois qui servent le développement de la conscience. Cinq lois sont particulièrement intéressantes car, si nous le souhaitons, elles peuvent nous permettre de devenir conscients de la façon dont nous nous sommes construits, de ce que nous avons développé et de ce qui nous manque. La première de ces lois étant que certaines situations du passé ne sont pas devenues conscientes, nous les remettons en scène. Il existe une intelligence à l'œuvre dans notre fonctionnement automatique. Nous nous embauchons les uns les autres pour rejouer certaines scènes de notre passé. Cela nous permet de savoir ce que nous avons vécu dans notre enfance et nous permet de prendre en charge les enfants intérieurs qui ont été blessés dans ces situations d'une façon différente. Le but de ce jeu est la conscience et la guérison. Lorsqu'un adulte a été un enfant maltraité, ses persécuteurs ont été ingérés. Ils font aujourd'hui partie de l'énergie des parents négatifs intériorisés, voire du persécuteur intérieur. Celui-ci va agir dans la personnalité d'une façon très semblable à celle dont ceux du passé agissaient ou permettre à des personnes extérieures de se comporter de cette façon. Cette remise en scène extérieure et intérieure du jeu victime-persécuteur va se continuer jusqu'à ce que le persécuteur intérieur soit vu et stoppé, et les émotions de l'enfant intérieur prise en considération. C'est en fait un mouvement spontané vers davantage de conscience et d'amour de soi. Deuxièmement, nous attirons ce que nous renions et nous épousons ce qui nous manque. Nous attirons de façon répétitive dans notre vie nos énergies reniées pour le pire ou le meilleur. Les énergies reniées en nous semblent agir comme une sorte de trou noir qui attire vers elle une énergie de même nature. Toute femme généreuse et altruiste épousera un égoïste parfait. C'est une loi énergétique, nous épousons ce que nous renions. Ce qui manque dans notre personnalité, nous allons le chercher chez l'autre et voici dressée la scène du drame. C'est la cinquième fois que Patrice se sépare d'une compagne. Une fois de plus, cette compagne, portée au nu voici quelques mois, se révèle invivable. Patrice est un homme responsable et raisonnable qui a totalement renié son enfant joueur, l'artiste, les parties innocentes et le plaisir de vivre sous toutes ses formes. Il tombe régulièrement amoureux d'une femme qui porte ces qualités-là à l'extrême pour s'apercevoir après quelque temps qu'il lui est impossible de vivre avec quelqu'un qui ne se soucie jamais d'argent, ni de conventions, ni de devoirs, qui ne pense qu'à s'amuser. Ces sortes de répétitions ne sont pas des fatalités. Elles indiquent simplement qu'une partie primaire domine notre vie et que nous avons absolument besoin de son ou de ses opposés. Patrice a besoin de fantaisie, de davantage de plaisir dans sa vie, et cette partie-là frappe à sa porte. Se décaler de sa partie rationnelle, se réconcilier avec sa partie enfant-joueur, son artiste, ses copersonnalités davantage tournées vers le plaisir, le sortira de cette attraction fatale. Un homme très rationnel tombera amoureux d'une femme artiste totalement irrationnelle. Une femme très responsable ne pourra pas résister à un homme hédoniste. Le père de famille, extrêmement sérieux, sera attiré par une Aphrodite qui vit sa sexualité librement. Ce que nous avons renié nous manque. Cette partie manquante chez nous, nous ne pouvons pas lui résister lorsque nous la rencontrons chez l'autre. Elle est aussi celle que nous allons par la suite juger et rejeter, comme nous l'avons vu. C'est ainsi, et c'est le troisièmement, que ce que nous détestons et jugeons, ou ce que nous surestimons, est une énergie reniée. Les individus et les objets que nous rejetons, haïssons, jugeons, sont des représentations directes de nos copersonnalités reniées. En corollaire, chaque personne que nous jugeons, détestons, rejetons ou estimons à l'excès est notre enseignant potentiel, pour peu que nous sachions prendre du recul et voir comment notre réaction prend racine dans une primaire qui réagit à une ou des copersonnalités que nous avons reniées. C'est une citation de Hal Stone. C'est tout le drame des couples. Nous tombons amoureux de ce qui nous manque pour ensuite, lorsque la vulnérabilité se réveille, revenir à notre système primaire et repousser cette partie même dont nous sommes tombés amoureux. Nous voulons alors que l'autre change et nous ressemble. En fait, toute vie de couple nous donne l'opportunité de voir et d'accueillir, lorsque c'est possible, une ou plusieurs parties reniées. La vie nous met encore et encore en présence de gens que nous jugeons, que nous détestons, qui nous irritent, jusqu'à ce que nous finissions par réaliser qu'ils sont les reflets de ce qui est renié en nous. De façon semblable, l'univers nous amène à rencontrer des individus que nous trouvons merveilleux et irrésistibles, des personnes face auxquelles nous nous sentons inadéquats, inférieurs et sans valeur, et cela jusqu'à ce que nous réalisions que ces individus ne font que nous montrer certains aspects de nous-mêmes que nous avons reniés. Quatrièmement, sous tout jugement se tient une vulnérabilité. Ce qui distingue le discernement du jugement, c'est que tout jugement contient une charge émotionnelle. Le jugement, c'est un mouvement énergétique défensif de l'ego, c'est-à-dire du système primaire. Nous rencontrons une partie reniée, ce système primaire se sent en danger, le mouvement de défense, c'est le jugement. Prenons un exemple. Cécile a enterré sa sexualité pour plaire à ses parents. Autant son père que sa mère lui ont enseigné qu'être sexuel, vouloir séduire, voire même vouloir l'attention de l'autre sexe, c'est être une moins que rien. Elle a donc développé une partie primaire très réservée, non aguichante, non sexuelle et même assez peu sensuelle. Cécile va à une soirée avec son compagnon Jérôme. Là se trouve Marine, habillée de la robe la plus sexy qui soit. Visiblement, Marine adore séduire et flirter avec les hommes. La partie primaire de Cécile est horrifiée. Le jugement arrive plus rapide que la lumière. Mais quelle traînée, cette femme ! Le jugement peut être prononcé à voix haute ou non. Il peut être jugé normal ou combattu. Il est automatique, il protège une vulnérabilité non consciente. La partie réservée de Cécile, sa partie primaire, doit continuer le travail fait par les parents et juger cette part d'Aphrodite dont Marine est le miroir. Cette partie réservée doit continuer à confirmer que la séduction et le flirt sont immoraux, sinon cette Aphrodite reniée va commencer à bouger chez Cécile, induite par celle de Marine. La petite fille de Cécile va alors se sentir angoissée, se souvenant des jugements et de la honte infligée autrefois lorsque cette Aphrodite pointait son nez. Le jugement vient au secours de Cécile. Il maintient en place le système primaire, l'enfant est rassuré, Cécile est quelqu'un de bien. Tous nos jugements sont automatiques et protègent une vulnérabilité non connue. Lorsque nous devenons conscients de nos jugements, ils participent à l'éveil de notre conscience. Ils nous indiquent les énergies que nous avons reniées et celles auxquelles nous sommes identifiés. Lorsque nous désirons ne plus juger, nous devons chercher quelle vulnérabilité est protégée par la primaire qui juge et en prendre soin d'une manière différente. Nous pouvons alors nous décaler de ce système primaire et accepter, au moins dans son essence, la copersonnalité opposée. Nous gardons alors notre discernement, mais nous n'avons plus besoin de juger. Rappelons qu'au cœur de toute énergie reniée se trouve un cadeau dont nous avons besoin. La cinquième loi qui nous permet de devenir de plus en plus conscients, c'est que nous manifestons ce qui est présent dans notre champ énergétique. La vie que nous menons dépend des copersonnalités qui sont actives en nous. Leurs croyances, leurs émotions ou les émotions qu'elles suscitent sont des fréquences qui colorent notre champ énergétique. Ce que nous manifestons répond à ces fréquences. Si quelque chose ne nous convient pas dans notre vie, nous pouvons nous décaler, c'est-à-dire nous désidentifier de nos copersonnalités primaires, de leurs croyances, de leurs émotions, et intégrer des fréquences opposées. Lorsque nous restons principalement connectés à la peur, la honte, la frustration, la colère, la sensation d'injustice et nos jugements, ces émotions de basse fréquence vont influencer ce que nous manifestons. Nous allons alors manifester le manque, la limitation, la séparation. Nous pouvons choisir délibérément de revenir dans le flot de la vie et de nous connecter aux fréquences de paix, d'amour, de joie, d'abondance, de gratitude, à un certain sens de l'unité. En choisissant moment après moment de reconnaître la présence d'une émotion de basse fréquence dans notre champ énergétique, en acceptant de la ressentir, cette émotion va continuer son chemin et ne faire que nous traverser. Nous pouvons alors choisir de nous connecter de nouveau aux fréquences de paix, de joie, d'amour, d'abondance. Lorsque nous amenons ces hautes fréquences dans notre champ énergétique, ce que nous manifestons devient très différent. Dans notre société actuelle, plus personne ne nous parle de l'âme. Notre équilibre psychique dépend pourtant de l'accès à la transcendance, à l'âme et aux dimensions supérieures. Nous avons tous en nous des copersonnalités dont le rôle est de nous mettre en contact avec ces autres dimensions. Elles peuvent être éveillées et développées. En conclusion, nous pouvons dire que notre psyché est une structure énergétique intelligente, indissociable du corps. Ensemble, ils sont notre outil d'incarnation et de manifestation. Les jeux énergétiques, résonance, induction, attraction, polarisation, rejet, jugement, projection, ancrage, sont naturels et automatiques. Ils peuvent devenir conscients et nous pouvons sortir de ces automatismes. Cependant, nous, êtres humains dotés d'une psyché, connaissons fort peu les différentes lois qui la régissent. Cette ignorance nous met en tension et laisse toute liberté aux différents critiques, intérieurs ou extérieurs, de nous fustiger pour des comportements sur lesquels, au départ, nous n'avons pas la main. Connaître les lois psycho-énergétiques permet de comprendre que notre personnalité s'est toujours construite au mieux, puis d'opérer, si nécessaire, une transformation organique, c'est-à-dire semblable à celle d'une plante qui pousse lorsqu'elle a du soleil et de l'eau. Vouloir ou contrôler n'est pas suffisant. Seul l'amour transforme, surtout lorsqu'il s'allie à la connaissance. Il est normal d'avoir un système actif de parties primaires et reniées. Ce qui est déterminant pour évoluer, c'est d'ouvrir un espace de conscience qui soit au-delà de tout jugement sur nous-mêmes et sur les autres. C'est l'espace de la vision consciente, voir ce qui est là, sans jugement, sans tension, sans but. Cette vision engendre, le moment venu, un processus d'ego conscient. Nous sommes de moins en moins soumis aux automatismes. Nous pouvons choisir les énergies, les émotions et les fréquences que nous allons privilégier. Car nous sommes d'abord et avant tout un ensemble de fréquences et ce que nous manifestons découle de ces fréquences. Nous sommes des créateurs et nous créons sans cesse. Le faire de façon consciente est possible. Nous créons avec nos croyances et nos émotions. Nos croyances sont le véhicule, l'émotion conduit. Il s'agit alors moins de contrôler nos pensées et nos émotions que de reconnaître quelle émotion est présente dans notre champ énergétique, quelle pensée l'accompagne, quelles sont les réactions de notre corps. Il s'agit d'accepter de ressentir pleinement ce qui se passe. Puis, lorsque l'émotion s'estompe, l'émotion déconnectée du mental dure très peu. Elle peut revenir encore et encore, mais elle ne dure pas. Nous pouvons alors inviter dans notre champ énergétique les fréquences que nous désirons. Accueillir et laisser les émotions de basse fréquence nous traverser pour rechercher et stabiliser des émotions de haute fréquence nous donne l'expérience d'être un être conscient dans un univers aimant et conscient. C'est ainsi que nous pouvons manifester consciemment ce que nous désirons, même si nous sommes tous baignés dans l'ignorance et la perte de mémoire propre à la race humaine. Ce collectif nous influence bien sûr. Il appartient à chacun d'entre nous de le faire évoluer et de comprendre que le paradis est simplement une zone de fréquence dans laquelle il est possible d'exister ici même sur Terre. C'était Véronique Brard, enseignante en Voz Dialogue. Vous retrouverez le texte des lois psycho-énergétiques dans le bulletin de Voz Dialogue France, numéro 130 de mai 2025. Merci de votre écoute.